le réseau. Donc évidemment, dans cette notion de réseau, il y a l'entourage, mais il y a aussi les soins. Et l'entourage, ça ne veut pas forcément dire la famille, ça veut dire au sens large. Et le troisième ingrédient, c'est aussi sa capacité à se projeter vers l'avenir et à avoir envie, à maintenir l'envie, ce qui n'est pas toujours simple. Et l'entourage, elle peut être soutenant parfois pour que les envies réapparaissent.
Et donc, pour accompagner les patients qui ont des enfants, il y a, j'imagine, pas des protocoles, mais une expertise et des modalités.
Alors oui, sur l'unité espoir, déjà c'est un sujet sur lequel on s'autorise à parler avec les groupes de personnes concernées, de pouvoir parler de sa parentalité, de comment on peut parler du trouble aussi à ses enfants et à quel âge, et qu'est-ce qu'on dit à quel âge. Et c'est hyper riche de pouvoir échanger entre personnes concernées, entre celles qui ont déjà testé des mots et comment on peut les reprendre quand ils nous parlent. Voilà. Et puis, on a des ateliers aussi qui permettent d'accueillir avec des supports ludiques. On utilise beaucoup de supports ludiques grâce à Linda qui nous a construit beaucoup de choses. Et ça ressemble un peu à un plateau de jeux de société. Mais derrière, c'est des questions sur le trouble qui viennent donner de l'information. Et en fait, à travers ces moments un peu ludiques, les enfants récupèrent de l'information sur leurs troubles de leurs parents. Ils peuvent aussi parler de comment ça se passe à la maison, des peurs qu'il peut y avoir. Et si maman, elle recommence, s'il y a une rechute, et qui est-ce que je peux appeler? Est-ce qu'on a le droit d'en parler? Et est-ce que moi aussi, je peux être concernée par cette maladie? Ou est-ce que c'est de ma faute? On a beaucoup ça, parce que les enfants, souvent, ils ont quand même beaucoup besoin d'être rassurés, puis d'être déculpabilisés sur le fait que leurs parents, ils vivent des choses, mais ils ne sont pas forcément responsables, et qu'on s'occupe d'eux, et qu'ils s'occupent d'eux, leurs parents. Donc ça, déjà, ça amène de l'apaisement. Ouais, ça ouvre le sujet.
Pareil, j'ai que des questions personnelles. Qu'est-ce qui vous a, dans votre parcours de vie, en tant que soignante, c'est quel moment de votre vie vous avez choisi ça? C'est enfant, c'est plus tard, c'est des rencontres?
Alors le parcours, moi mon parcours il est un petit peu, j'ai pas choisi tout de suite d'entrer dans ce parcours-là de psycho et de soignant. J'ai eu des événements de vie aussi qui ont fait que j'ai eu besoin de comprendre des choses que je comprenais pas enfant. Et donc pour comprendre un peu ce qui se passait chez l'humain, pourquoi à certains moments ça fonctionnait pas comme on pourrait s'y attendre, j'ai eu besoin de creuser un peu et donc... d'en apprendre plus au travers de mon parcours universitaire. Et c'est vrai que j'avais aussi ce besoin d'écouter et de comprendre. Et donc, ça s'est développé petit à petit. Puis, je me suis tournée vers la psychiatrie aussi à travers des jolies rencontres que j'ai pu faire et qui m'ont orientée dans ce domaine. Donc, ça a été une belle richesse.
Moi, je me suis réveillée un matin. J'avais 12 ans et je voulais être médiatrice de santé père. Non. Non. Non, parce que ça relie au fait qu'il y a un trouble. Non, par contre, je trouve qu'un parcours, quel qu'il soit, autant qu'on est, avec ou sans maladie, c'est d'abord des rencontres, comme l'a dit Perrine. Et dans ces rencontres, il y a, pour les accidentés parfois, il y a la rencontre avec la maladie. Et moi, je ne savais pas que ça existait, ce métier. Je n'en avais aucune idée. Par contre, la maladie, je la vivais depuis plus de 10 ans. Et assez frontalement. Et quand l'occasion a été possible de participer à l'aventure de la création de l'unité, je me suis dit pourquoi pas. Et en fait, ce travail, je pense que chacune des collègues... viendra dans mon sens, mais ce travail, c'est aussi des rencontres, avant tout des rencontres, et du coup, il y a un fil rouge. Hein? Et je trouve que soutenir et accompagner des personnes qui ont un trouble, aussi différent soit-il, pour pouvoir les encourager à se dire que c'est possible, je trouve que c'est super chouette, en fait.
Et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'interview inversée de chez Georges avec Ambra Senatore et le groupe radio de l'Unité Espoir. Ce sera juste après le choix musical de Jeanne.
Un couple d'amis, Bérénice et Mathieu, m'ont partagé cette musique, me disant qu'elle leur faisait penser à l'épisode que j'ai vécu il y a un an et demi.
On avait la plage dans le sablier, on prenait le temps, on avait la rage bien chevillée, pas de chaîne en argent, on avait la nage pour tout voilier, poussé par le vent, on avait le large au mètre carré, une chambre de bonne, un petit loyer, on passait le temps, le soir on crayonnait nos petits carnets, en chantant. Nos rêves d'enfants libres et triomphants, où sont-ils à présent? Le matin, nous croyons en nos prières, nos messes basses, puis nous prenons notre lot de revers en pleine face. Est-ce à cause ou grâce? À cause ou grâce? Elle est violente. Cette folle espérance, et comme il fait mal, l'idéal. On avait la plage dans le sablier, ça n'a duré qu'un temps. C'était le bitume qui nous collait aux pieds, la plupart du temps. Avant l'attelage, avant les baudets, on mettait la charrue. Car selon l'adage, tout nous attendait au coin de la rue. La gloire, la fortune, on y croyait fort. On se voyait grand. On n'avait pas la thune, mais plutôt la mort. Finir comme tous ces gens. Mais qu'est-ce qu'on savait? Qu'est-ce qu'on savait, nous? On savait rien des gens. On était de passage pour l'éternité. Le matin, nous croyons en nos prières, nos messes basses. Puis nous prenons notre lot de revers en pleine face. Est-ce à cause ou grâce? À cause ou grâce? Elle est violente, notre folle espérance, et comme il fait mal, l'idéal.
Chatterton, un extrait du titre « À cause ou grâce ?».
Et nous sommes de retour chez Georges avec Ambra Senatore. On a évoqué l'entourage, la parentalité, on a évoqué la vocation, la rencontre. Est-ce que vous avez d'autres questions à poser au groupe radio de chez Georges ?
Eh oui, Tachi. Donc si on ne veut pas répondre, je comprends parce que c'est peut-être difficile. On a donc les personnes à qui on interagit, c'est des proches, d'accord. Et puis il y a tout le reste du monde, c'est-à-dire des gens qu'on ne connaît pas, qui ne nous connaissent pas, pour prendre le train, pour aller chez le boulanger, à la poste. Et je me demande, j'imagine qu'il y a des phases, évidemment, mais la posture vers soi-même, de cette relation à des gens qui, elles, bon, vous arrivez, vous êtes une personne quelconque, est-ce que vous sentez Ouais, une posture sur vous-même, un auto-jugement, je ne sais pas, quelque chose qui fait que votre relation à ces autres gens inconnus a un poids plutôt qu'un autre. Je ne sais pas si j'arrive à être claire.
Alors pour moi qui suis bipolaire, je suis très concernée par cette question. C'est vrai que, alors déjà les gens qu'on connaît moyennement, on peut y avoir des préjugés du type, c'est bon, tout le monde a des hauts, des bas, tout le monde change d'humeur, enfin... Bah oui, mais non. On prend des médicaments quand même. En fonction des phases dans lesquelles je pourrais être, ma posture justement est absolument pas la même. En phase dépressive, j'aurais plutôt tendance à sortir en jogging, en faisant la gueule, pas coiffée, pas maquillée, enfin voilà. Et à l'inverse, en phase maniaque, je me trouve méga canon. et voilà, il y a une espèce de volonté de plaire au monde entier. Et donc là, je parle pour la bipolarité, mais je pense qu'il peut y avoir des similarités dans d'autres maladies.
Alors, je ne sais pas si je vais bien répondre à toute cette question, mais disons que moi, je n'ai pas encore de diagnostic, donc peut-être que j'en aurai jamais, peut-être qu'il y en aura un. Mais de fait, je pense plus aux angoisses quand je suis à l'extérieur de chez moi. Enfin, chez moi, je peux en avoir, mais du coup, à l'extérieur de chez moi, ça m'arrive d'en avoir. Et en fait, dans la vie courante, ça se passe bien. Mais quand il s'agit de rencontrer des nouvelles personnes dans une soirée, etc., c'est toujours la question pour moi d'être sincère et de dire, est-ce qu'à un moment donné, j'explique pourquoi je ne travaille pas, j'explique pourquoi j'ai besoin de me retirer un peu parfois. Enfin... Et du coup, si je le sens, si je sens que la personne en face de moi est prête à accueillir ça, je le dis assez facilement finalement, que je traverse une période de flou, on va dire, au niveau de mon psychisme. Et voilà, mais je pense que le fait que ce soit invisible aussi, que ce soit les maladies, enfin, ou les angoisses, ou la souffrance psychique, c'est sûr que c'est avec nous-mêmes quoi, que ça se joue, quelque part.
En général, je le dis pas trop aux gens. C'est que je suis malade. C'est maintenant, avec le temps, j'ai réussi à me réconcilier un peu avec la maladie, donc j'arrive parfois à dire que j'ai des problèmes de soucis de santé, mais je reste flou. Mais ça, l'unité espoir m'a aidé à me réconcilier avec une part de ça. Mais sinon, je suis plutôt à pas trop le dire ou le cacher, de peur que ça effraie, ou même, je vois chez les gens parfois ça. C'est vrai, si tu arrives en disant je suis schizophrène, y a un gros a priori dessus. Nous avons véhiculé souvent par les films qui montrent que des personnages qui vont tuer tout le monde. Voilà. et pas de schizophrène normal, entre guillemets, qui est juste lui et sa maladie. Quoi. Voilà, je suis plutôt à pas trop le dire pour l'instant. Après, je me dis que j'aimerais bien réussir à savoir plus l'affirmer et peut-être en être fier, mais dans le sens pour pouvoir inspirer d'autres personnes à reconnaître cette maladie, à être ok avec, à être en paix avec et à pouvoir être qui ils sont sans se cacher.
Moi aujourd'hui, avec le monde un peu extérieur, pareil, je suis bipolaire, donc j'ai des phases où ça va aller, où je vais être aller vers les autres de manière très naturelle, et puis en phase dépressive, je sors plus de mon lit, mais plus par rapport à ce que tu expliquais, par rapport avec le regard sur la maladie. Moi, aujourd'hui, je m'en fous. Je l'ai intégré depuis déjà longtemps, parce que j'ai souffert. Alors, j'ai mon diagnostic qui n'est pas très vieux de bipolarité, mais je souffre de ce trouble depuis très longtemps. J'ai eu des addictions. Pendant longtemps, j'ai arrêté depuis 10 ans aujourd'hui, mais ça a été long. Voilà, j'ai eu un parcours un peu cabossé, comme tout le monde ici, je pense. Voilà. Mais en fait, j'ai accepté. Et du coup, en fait, je peux en parler aux autres sans trop de peur du jugement, parce que... moi, je la connais, ma vie, je sais de quoi elle est faite, les choses bien que j'ai faites ou mauvaises. Et puis le jugement des autres, ça me passe au-dessus de la tête, véritablement. Je m'en fiche. Voilà. Non, mais je pense qu'il faut, à un moment donné, se détacher de ça, parce que sinon, c'est invivable. Parce que s'il y a le voisin en face qui va... on s'en fout, en fait. On va dire, t'es qui voilà.
Eh ben, ça me fait rebondir. Est-ce que vous aurez des... Je ne sais pas si c'est des conseils, mais... oui, un conseil de quoi dire à quelqu'un qui n'est pas dans un état de maladie par rapport à la manière possible de se rapporter à quelqu'un qui l'a. Après, il y a des maladies très différentes, donc j'imagine qu'aussi, dans des différents cas, c'est des différents rapports aussi qu'il faut avoir.
La première chose que ça m'inspire, c'est à dire un élément à une personne qui ne serait pas concernée par la maladie et qui n'y connaît rien. Déjà, je lui dirais « reste naturel ». Ça, ce serait le premier élément. Ensuite, y a aussi, si je devais l'expliquer un peu simplement, je dirais les troubles psychiques, ils sont propres à chacun, ils sont aussi variés qu'il y a de personnalités. Donc il n'y a pas de règle. Le point commun, c'est une fragilité, une vulnérabilité psychiatrique en l'occurrence, avec lequel il faut composer. C'est ça. Et donc je dirais à la personne que je connais pas, là, reste naturel, juge pas et sois curieux. Tu peux être surpris. Je dirais ça.
Et surtout, le conseil principal, quelqu'un qui a des doutes, quelqu'un qui, voilà, qui est pas bien à un moment donné, consulter. Vraiment, il n'y a pas de tabou avec ça. Et heureusement, ça se démocratise de plus en plus, mais il faut consulter, vraiment, parce que c'est pas Google qui va vous dire si vous êtes bipolaire, si vous êtes schizophrène. Ça. Consultez vraiment un spécialiste psychiatre.
Et peut-être une dernière chose, c'est que au tout début, dans le parcours, moi je disais je suis, et maintenant je dis j'ai un trouble. Et ça, c'est le décalage. Je vous entendais dire le pas de côté tout à l'heure en danse, et ben avec la maladie c'est pareil, il y a un pas de côté à faire. On n'est pas la maladie. On est un individu avec un trouble. Ça, moi j'y tiens beaucoup.
Chez Georges.
Les voix de la rencontre.
Chaque soir, le soleil se couche sur Georges Domaison et chaque émission s'achève par une évocation de la nuit.
Donc nous, les patients, on a tous une sorte d'exutoire. Pour ma part, c'est la poésie. Donc pour cette chronique, j'ai écrit un poème inspiré du silence bruyant de la nuit et de l'importance d'être entouré, comme on le mentionnait tout à l'heure. C'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que les proches sont essentiels et souffrent tout autant que nous de nos pathologies. C'est parti. Encore un soir loin de Morphée. Comme d'habitude, je m'abrutis devant la télé. Ça m'évite de penser. Cigarette à la main, esprit éteint, quand soudain, coupure de courant. Le silence me surprend. Un générateur de secours s'active immédiatement dans mon cerveau. Il oriente la lumière sur ce pénible fardeau. Sur le dos, paralysé, yeux grands ouverts, mâchoire serrée. Une boule de magma au creux de l'estomac. Dans mes veines, je peux presque sentir les composants de mon élixir. Lithium, lamotrigine, témestac et thiapine. Des soldats qui se battent jour et nuit pour assurer ma survie. Et pourtant, me revoilà perdue. Je peine à me définir. Je suis l'audace qui a peur, la colère qui sourit, l'anxiété qui apaise, l'envie qui s'ennuie. Et surtout, je suis la solitude entourée d'amour. Il est si difficile de mettre des mots sur l'irréel, si ardu d'expliquer ce qu'on ne comprend pas soi-même, si compliqué de saisir la cause de tous les problèmes. Malgré tout, il me faut rester hors du chaos. Il me faut laisser s'envoler les corbeaux. Je sais qu'à mon réveil, ils seront tous à mes côtés. Famille, amis, alliés, j'ai foi en leur ténacité, leur sourire contre vents et marées. Grâce à eux, je sais qu'au fond de la nuit noire, je croiserai toujours une lueur d'espoir.
Nous avons une dernière question pour vous, Ambroise Sénatoré. Quel est votre rapport à la nuit ? Est-ce que cela vous inspire des choses, notamment pour créer ?
Mon rapport à la nuit a changé. je dors très mal. Je dors très peu, je me réveille, mais je ne m'endors pas souvent quand j'ai des gros questions de gestion, par exemple logistique de mon enfant.
Voilà, c'est chacun ses problématiques. Mais... Ou alors de la compagnie. Donc, et les problèmes paraissent plus grands la nuit, je trouve. Au réveil, ok, d'accord, on essaie de faire face. Alors la nuit, c'est immense, c'est ingérable. Si autrement, la nuit, c'est de l'autre côté, c'est aussi du silence, de la paix. Il y a les deux. Et pour, par rapport à la création, je n'ai pas de conscience de comment elle peut influencer. Je ne suis pas consciente que la nuit ait une influence sur la création. Par contre, dans les nuits troublées par la, des fois des moments de crise là, sur la création, je sais que se remettre au travail, ensemble, dans le corps, plutôt qu'anticiper, être préoccupé, voilà, la préoccupation est un fardeau énorme. Alors hop, on se remet, on fait face, ensemble. Tu vois, comme un artisan qui fait... Est-ce que c'est la même chose ? Voilà, on est là, on part, on se questionne, on avance ensemble avec les compétences de chacune et chacun. Et les choses se démêlent et ça avance. Voilà.
Merci.
Chez Georges, les voix de la rencontre.
Les voix de la rencontre.
Merci d'avoir été avec nous depuis l'unité Espoir du centre hospitalier Georges Domaison. Chez Georges, une émission faite par les patients et les soignants de l'hôpital.
Merci beaucoup, Ambra Senatore, d'avoir été notre invitée aujourd'hui.
Et merci à Jeanne, Mélissa, Benjamin, Sarah, Perrine, Lynn, les deux Béatrices et Aurélie.
Et Nicolas et Linda, les fières présentatrices de cette émission.
Merci.
Merci à Catherine Marquette qui porte et organise cette saison radio. À Londe Porteuse qui la réalise avec aujourd'hui. À Sita Cissé à la technique. Zeynab Dia et Capucine Fray à la préparation.
Et on se retrouve dans un mois pour découvrir le CIPAD, le service intensif de psychiatrie à domicile. À bientôt.
À bientôt. À bientôt.
Je voulais vous remercier, moi aussi, pour l'invitation, pour le soin dans la préparation de tout ça et pour les plein de choses que je n'ai pas compris encore, mais les pistes de découverte que vous ouvrez et contente d'ouvrir ensemble. Merci.
Merci, au revoir.
Ça l'a fait.
C'est 2 heures.
Ouh, c'est passé. Ouais, c'était mieux qu'hier.